Voyons maintenant les alternatives, comment on a décidé de diriger cette matinée. On commencera donc par l'intérêt de connaître le rôle des tuiles dans la survenue des troubles respiratoires nocturnes et surtout qu'est-ce qu'on peut proposer pour les traiter efficacement. Merci.
Donc, on vient de voir le traitement des références des apnées obstructives de sommeil, la pression positive continue, traitement très efficace, contrôlé, mais non curatif. C'est-à-dire, la PPC contrôle les apnées, mais ne contrôle pas la cause des apnées. Donc, on a vu la pression positive appliquée par la machine ouvre, garde ouvert les pharynx pendant le sommeil, empêche la survenue des apnées de façon indépendante de la cause des apnées. Donc, elle normalise la respiration dès la première nuit du traitement. Il n'y a plus d'apnée, mais si on arrête la machine, les apnées reviennent assez nombreuses qu'avant, ce qui sous-entend que la machine est à vie. Si on veut un traitement curatif des apnées obstructives du sommeil, il faut chercher la cause et la soigner, ce qui ce n'est pas encore évident aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement. Et on a effectivement mis en évidence jusqu'à aujourd'hui de nombreux facteurs de risque des apnées du sommeil. La difficulté aujourd'hui reste dans le fait que c'est difficile d'identifier les facteurs spécifiques en jeu par un patient donné. Et donc, ce que nous on appelle le phénotypage des patients qui nous permettrait de trouver les traitements personnalisés pour les patients, un traitement qui serait curatif. Donc, pour vous faire l'exemple classique du traitement curatif des apnées du sommeil, et l'exemple classique est la perte du poids. L'obésité, on a dit, est le principal facteur des risques, le principal facteur favorisant les apnées obstructives du sommeil. Si on perd du poids, dans la plupart des cas, on perd beaucoup d'apnées. Le problème, c'est que ce passage n'est pas facile et nécessite du temps. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du facteur qui favorise les apnées obstructives du sommeil, qui est mise en évidence plus récemment par rapport à l'obésité, et c'est les mouvements hydriques. Donc, ce mécanisme a été mis en évidence par l'équipe du professeur Bradley, qui travaille à l'Université de Toronto, où j'ai eu la chance de travailler pendant une certaine période. Et ce mécanisme consiste dans le fait que pendant la journée, en position debout, on a tendance d'accumuler des fluides dans les membres inférieurs. En particulier si on est en présence des pathologies associées à rétention hydrique, voire l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle résistante aux médicaments. Dès qu'il est soir, on passe en position allongée pour dormir, l'excès de fluide accumulé dans les jambes est déplacé par effet de la gravité vers la partie supérieure du corps. Cette quantité de fluide, c'est comme si on en fait un tift à bouteille d'eau. Ce fluide peut atteindre la région cervicale, provoquer un édème des parois du pharynx en favorisant le collapsus du pharynx et donc la survenue des apnées obstructives du sommeil. Donc, l'intérêt pour ces facteurs physiopathologiques et ces facteurs qui favorisent l'apnée du sommeil est le fait que c'est un facteur potentiellement réversible et donc peut être l'objectif de notre traitement curatif. D'où vient l'idée du fluide? L'idée du fluide vient de l'observation que la prévalence des apnées obstructives du sommeil est beaucoup plus importante dans l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et l'hypertension résistante aux médicaments. Trois conditions qui sont caractérisées tous les trois par la rétention hydrique. Vous voyez, les 30, 35, 60% des patients atteints de ces pathologies, ils ont des apnées obstructives du sommeil modérées à sévères par rapport aux 7% de la population générale. Donc, nous, on a mis en évidence pour chacune de ces pathologies une relation étroite entre les déplacements nocturnes des fluides des jambes à la partie supérieure du corps et la survenue des apnées obstructives du sommeil. La sédentarité est un autre facteur associé à la rétention hydrique. Et je vous montre pour quel mécanisme. Alors, l'être humain, en fait, il est passé en position debout, depuis 400 millions d'années, ce qui comporte des changements importants au niveau de l'organisme. Bon, évidemment, la première fonction des jambes est la fonction du déplacement, mais ce n'est pas la seule. En fait, l'effet des patients en position debout fait que des modifications importantes ont eu lieu au niveau de la circulation. l'activité cardiaque, le cœur que vous voyez là au milieu, a la fonction de propulser le sang dans les systèmes artériels jusqu'à tous les organes de notre organisme. Dans les compartiments veineux, le rôle du cœur est moins important, mais suffisant en position allongée pour permettre les retours veineux, les retours du sang au niveau cardiaque. Les moments où on se met en position debout statique, ça veut dire soit debout statique, soit en position assise, c'est la même chose, on a une difficulté au niveau des veines des membres inférieurs à faire remonter le sang au niveau cardiaque. Ce n'est pas le cas si on marche. Si on marche, on active ce qu'on appelle la pompe musculo-veineuse des jambes qui, avec le cœur, favorise les retours veineux au niveau cardiaque et donc la circulation. Donc c'est très important de marcher. De marcher si on veut garantir une bonne circulation et empêcher l'accumulation des fluides au niveau des jambes. Et c'est ça, la fonction des jambes, la deuxième fonction des jambes, c'est de faire circuler le sang, vu qu'on est en position de début. Alors, c'est un mécanisme très, 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 très efficace. Tout commence au niveau du pied, vous voyez. Et lors de la mise en place d'un pas, vous voyez, il y a un écrasement de la voûte plantaire, là où il y a un certain réseau des veineux. Cet écrasement fait propulser le sang au niveau du mollet, première étape. La deuxième étape, la contraction du mollet et des muscles de la cuisse, fait remonter encore et ultérieurement les sangs. Grâce à les valves veineuses unidirectionnelles qu'on a dans les jambes, et on empêche les reflux de sang au niveau périphérique. Donc, c'est de cette façon que la marche et l'activation des jambes est importante pour permettre les retours veineux. Dans les dernières 50 années, l'être humain s'est mis assis sans donner le temps à son organisme de s'adapter à ces modifications. Ce que ça veut dire qu'on passe énormément de temps assis sans utiliser la pompe musculo-veineuse des jambes, et c'est pour ça que la sédentarité est associée à la rétention hydrique. Et donc, dans un deuxième temps, probablement aux arrêts ou ce type de sommeil. On a montré en fait que plus de temps on passe assis pendant la journée, plus important est le volume d'eau accumulé dans les jambes pendant la journée et plus important les déplacements la nuit vers la région cervicale. Donc, deuxième étape était d'essayer justement d'appliquer des traitements qui visent à empêcher la rétention hydrique, d'utiliser ce type de traitement pour traiter l'apnée du sommeil. Donc, on a utilisé des diurétiques, donc des médicaments qui aident à l'élimination de l'excès des fluides à niveau rénal dans l'hypertension artérielle et dans l'insuffisance cardiaque. On a utilisé la dialyse, donc une technique qui permet de prendre la place des reins quand ils sont inefficaces dans l'insuffisance rénale terminale pour éliminer les fluides en excès. La compression veineuse par des vagues de contention empêche l'accumulation des fluides dans les jambes si on n'active pas la pompe musculo-veineuse pendant la journée. On a essayé de faire ça dans des patients avec une insuffisance veineuse et des patients sédentaires. Et enfin, l'activité physique, en particulier la marche régulière deux fois par jour, une demi-heure par deux par jour, chez les patients sédentaires. Tous ces traitements se sont montrés efficaces en réduisant l'index d'apnée complet d'environ 30%. Il faut dire qu'il s'agit d'études sur des petits effectifs et la durée des traitements était courte. En plus, aujourd'hui, la détection, la quantification du mouvement autour des fluides dépend d'une technique qui n'est pas utilisable dans la pratique clinique. Donc, on essaie aujourd'hui de développer des méthodes plus simples qui sont en phase d'évaluation, comme des questionnaires, pour détecter pour chaque patient l'importance de ce phénomène et pour les censer donc comme objectif de notre traitement. Donc, pour placer les fluides dans un contexte de l'évolution, cette fois-là, du traitement des apnées du sommeil, on est parti du fait de réveiller les patients quand ils dorment et en train de faire une apnée. C'est des choses que les femmes des patients prennent encore aujourd'hui pour leur conjoint. On a eu une phase de trachéostomie, donc on bypasse totalement les problèmes du pharynx et on fait respirer les patients qui ont une trachéostomie, ce n'est pas vraiment applicable aujourd'hui. Le développement de la PPC en 81, la commercialisation de la PPC en 85 et ensuite le développement des machines plus performantes, plus petites, plus silencieuses, plus jolies, qui nous aident à faire accepter les traitements aux patients. Et après, je laisserai la parole après pour l'orthèse d'avancée mandibulaire et la stimulation de l'hypoglosse. Mais pourquoi pas, j'espère bientôt, on pourra utiliser des médicaments, voire des diurétiques, des bas de contention et surtout l'augmentation de l'activité physique pour soigner dans un sous-groupe de patients l'apnée du sommeil. C'est difficile d'augmenter l'activité physique parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut juste trouver la bonne façon. On peut travailler en faisant de l'activité physique. Et donc, pour conclure, les mouvements typiques nocturnes favorisent la survenue des apnées obstructives du sommeil et sa potentielle réversibilité en fait un objectif thérapeutique. La sédentarité prédispose aux apnées en favorisant la rétention hydrique. Et au jour d'aujourd'hui, des méthodes simples de détection de ces phénomènes au moment des diagnostics sont nécessaires pour mettre en place un traitement spécifique, personnalisé et donc curatif pour un sous-groupe des patients, voire obtention à l'utilisation.